السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه ليلة 25 من شهر الله المحرم من عام 1439 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. Nous sommes le 24 du mois égyrien Al-Muharram de l'an 1439 de l'égir du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui correspond au 14 octobre 2017. Et après une interruption d'une durée de 4 mois de nos cours sur l'étude du livre Kashf al-Shubuhat, nous voici à nouveau assis devant et avec ce livre, dans le but de continuer son étude, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Mais avant de reprendre l'étude de ce livre, nous allons consacrer cette assise, inshallah ta'ala, au résumé des cours passés. Nous allons un peu revoir de manière globale, brève, rapprochée, les leçons que nous avons déjà tirées lors de nos assises passées. Ceci afin de ne pas reprendre directement dans le milieu du livre sans comprendre le début, le milieu ou la fin, et en étant tout simplement perdu. Mais avant d'entrer dans ce résumé dont nous avons parlé, où nous allons parler, je voulais juste que l'on se rappelle l'importance des gens de science, l'importance des savants de la sunna, l'importance des prêcheurs à la sunna, l'importance des élèves des savants de la sunna. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala donne la mort à l'un d'entre eux, c'est une brèche qui se fait, qui apparaît et qui ne sera jamais comblée. Je dis ces mots suite au décès du cheikh bien-aimé, le dénommé Yassin Al-Adani, originaire du Yémen, dans le sud, la ville de Adan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée et lui fasse miséricorde. Et je sais que certains d'entre vous ne le connaissent pas. Et ce cheikh, rahimahullah, est un grand élève du cheikh Muqbil, rahimahullah ta'ala. Et il faisait partie des enseignants dans son centre d'études, dans le village appelé Dammaj. Et ceci depuis l'époque du cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, rahimahullah ta'ala. Yassin al-Adani, qu'Allah lui fasse miséricorde, était un des élèves les plus brillants, et surtout dans le domaine de l'aqida et le tawhid. Et je peux vous le dire car je l'ai vu de mes yeux, étant donné que j'étais dans cet institut grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, si ce n'est qu'à l'époque je ne pouvais pas assister à ces cours étant donné la faiblesse de mon niveau. Et il enseignait à l'époque les livres comme Fathul Majid, le Sharh de Kitab al-Tawhid, ou d'autres livres. Et il a d'ailleurs des écrits lui-même. Il a corrigé des livres dans l'Aqidah. Et ces corrections et ces vérifications scientifiques ont été vantées par certains parmi les gens de science de Médine et d'autres villes bénies. Et le Cheikh, rahimahullah ta'ala, était quelqu'un d'endurant dans la quête du savoir et dans sa propagation. Pendant de longues années, il a enseigné dans le Merkez de Dammaj, depuis l'époque de Cheikh Muqbil. Puis lorsque Cheikh Muqbil est parti, rahimahullah, il a continué. Puis comme beaucoup d'entre vous doivent le savoir, ils se sont égarés du chemin d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le Cheikh Yassin et d'autres parmi les gens dans son niveau de science ont dû quitter cet endroit. Puis il s'est rendu dans un autre institut, à Ma'bar, ils se sont égarés. Et Allah est sage, il guide et il égare qui il veut. Il a quitté cet endroit. Puis il s'est retrouvé dans sa ville, la ville de Adan, et il a pris la fonction d'imam dans la mosquée appelée Masjid Zaid, dans un des villages de Adan, dans une mosquée qui ne connaissait pas la sunna, dans une mosquée dans laquelle le prêche, la da'wa qui était propagée, n'était pas la sunna. Des innovations ici et là. Et lorsqu'Allah Azza wa Jalla l'a amené à cet endroit, et qu'il a pris la fonction d'imam de cette mosquée, il a enseigné, et on entendait dans le village, dans les haut-parleurs de la mosquée, l'explication de Kitab al-Tawhid, l'explication de l'Aqidatul Wasitiyya, rahimahullah ta'ala. Et il était connu pour sa fermeté dans le suivi des grands savants de la Sunna, rahimahullah. Et lorsque les chiites, et lorsque les khawarij, et toutes ces sectes égarées ont voulu causer du tort aux habitants de la ville de Adan, tout comme ils l'ont fait à d'autres villes aussi, certains avaient préféré quitter la ville de Adan dans le but de regagner la sécurité, soit dans d'autres pays ou dans d'autres endroits. Le Cheikh Yassin rahimahullah avait dit: quant à nous, nous resterons à Adan quoi qu'il arrive. Il a dit ça il y a à peu près un an passé. Et à cette époque, les khawarij égarés, ces criminels, assassinaient des gens de la sunna. Et Cheikh Yassin avait dit: nous resterons ici, quoi qu'il arrive. Car si l'on reste ici, les gens de la sunna vont rester fermes. Mais si l'on s'en va, les gens de la sunna vont s'affaiblir. Et de toute manière, on mourra quand Allah va nous le décréter. Et un an après, rahimahullah, il est mort cette semaine. Et comment est-ce qu'il est mort? Il est monté dans sa voiture et elle a été piégée. Sa voiture a tout simplement explosé. Puis un grand feu a pris et il a carbonisé, rahimahullah ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui meurt brûlé est martyr. Et comme l'a dit le Cheikh Ubaid al-Jabiri, hafidhahullah, huwa shahidun insha'Allah. Il est martyr, insha'Allah. Donc le moindre que l'on puisse faire pour ce genre de personnes, c'est d'invoquer Allah pour eux. Fanas'alullaha jalla wa ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula wa bismihi al-a'zam alladhi idha du'iya bihi ajab wa idha su'ila bihi a'ta أن يرحم الشيخ ياسين رحمة واسعة اللهم اغفر له وارحمه اللهم وسع قبره مد بصره وشفع فيه رسولك صلى الله عليه وسلم واحشره في زمرة نبيك وأصحابه يا ذا الجلال والإكرام كما نسأل الله عز وجل أن ينصر أهل عدن على الخوارج المارقين والروافض المنافقين وأن ينصر أهل السنة في كل مكان ويجمع قلوبهم على الحق. On demande à Allah Azza wa Jal de réunir les cœurs des gens de la Sunna sur le droit chemin, de faire miséricorde à ce noble cheikh et de réunir les cœurs des gens de la Sunna dans la vérité et de venir en aide à sa famille car il laisse derrière lui des veuves ou une épouse veuve et des enfants en bas âge. Et son fils qui avait 12 ans était avec lui et Allah l'a épargné. Il est sorti de la voiture quelques secondes avant qu'elle n'explose. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ceci étant dit, nous voici de retour dans ces assises dont nous espérons d'Allah subhanahu wa ta'ala la bénédiction. Celle de l'étude du livre Kashf al-Shubuhat, la dissipation des ambiguïtés. Ce livre, comme beaucoup d'entre vous le savez, traite de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, particulièrement des ambiguïtés, des troubles qui ont été propagés par les gens du faux pour justifier leur adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. À l'époque du cheikh, le cheikh de l'islam, Muhammad, fils de Abdul Wahhab, qu'Allah Azza wa Jal lui fasse miséricorde. Et après avoir écrit son noble livre Kitab al-Tawhid, dont Allah Azza wa Jal nous a facilité l'étude détaillée, les gens du faux, n'ayant plus d'arguments face à la vérité manifeste, ont usé de ruses et ont émis des ambiguïtés. Et comme Allah Azza wa Jal le dit dans le Coran, il y a des gens qui ne prennent pas les versets explicites, mais ils citent plutôt des versets qui peuvent porter à confusion pour ceux dont la science n'est pas vaste et enracinée. Et avec ces versets, ils vont tout faire pour tromper les gens, comme c'est la coutume des gens du faux. Wal'iyadhu billah. Alors, ils ont justement propagé ces ambiguïtés dans le but de contrer le prêche du cheikh. Si ce n'est qu'en réalité, ce qu'ils ont voulu faire, c'est contrer le prêche du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah a dit dans le Coran, « وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا » Ils ne viennent pas à toi avec une parabole, c'est-à-dire avec une ambiguïté, sans que l'on vienne à eux avec la vérité et avec la vraie interprétation. Ainsi, ce livre a été rédigé par cet auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, pour prodiguer le conseil à la communauté. Après leur avoir enseigné le tawhid à travers son livre Kitab al-Tawhid, les gens ont émis des ambiguïtés. Il a pris sa plume et écrit ce livre pour dire aux gens, n'écoutez pas le prêche des gens du faux, mais regardez les preuves du Coran et de la Sunna montrant qu'ils sont égarés et qu'ils vous éloignent du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kashfu shubuhat, la dissipation ou le dévoilement des ambiguïtés. Car dans la langue arabe, le mot kashafa signifie dévoiler, enlever le voile qui t'empêche de voir la vraie chose. C'est pour cela que dans Surat Qaf, Surat 50 du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَكَشَفْنَا عَنْكَ, pardon, il s'adresse aux gens qui le rencontreront le jour dernier et qui étaient insouciants dans ce bas monde, فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ, فَكَشَفْنَا, aujourd'hui nous ôtons le voile, فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ, et ta vue est perçante aujourd'hui. C'est-à-dire, tu étais insouciant dans ce bas monde, distrait du but de ta création. Tu étais voilé par le suivi de tes passions, par l'assouvissement de tes désirs et autres. Aujourd'hui, ce voile, Allah l'enlève. Quel terme a-t-il utilisé ? Fakashafna. Le même terme que l'on retrouve dans le titre Kashf al-Shubuhat. C'est-à-dire, nous ôtons le voile. Ce voile qui est l'insouciance. Ici, Kashf al-Shubuhat, la dissipation des ambiguïtés. Shubuhat, qui est le pluriel du mot Shubha. Et Shubha, c'est quelque chose qui ressemble à la vérité. C'est quelque chose qui ressemble à la vérité, mais qui en réalité est faux. Et ça, c'est une manière d'égarer les gens. Chez les gens de l'innovation, on retrouve qu'ils utilisent des versets et des hadiths pour justifier leurs actes innovés. Mais en réalité, ce sont des ambiguïtés. Ce sont des ambiguïtés dans le but de repousser la vérité et de ne pas la montrer aux gens. Donc ce livre va porter sur des ambiguïtés, pas de manière générale, de manière précise concernant l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus particulièrement concernant toutes les personnes qui adorent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit des anges, des prophètes ou même des gens enterrés qu'ils adorent près de leur tombe et pour lesquels ils font des sacrifices, et autour des tombes ils tournent à tawaf, la circumambulation et toutes ces choses-là. Ces gens-là ont justement utilisé le faux pour justifier leurs actes. Mais avec ce livre, nous voyons de façon claire que la science du Coran et de la Sunna repousse toutes les ambiguïtés. si ce n'est qu'il faut les comprendre. Il faut comprendre cette science et il faut l'étudier pour ensuite l'appliquer et enfin la propager. Même s'il faut se déplacer, chers frères, même s'il faut faire plus de kilomètres que d'habitude, car aujourd'hui nous sommes dans une mosquée différente de celle dans laquelle nous avons entamé l'étude de ce livre. Et il se peut que certains disent « c'est trop loin, j'aurais bien aimé y aller, mais c'est trop loin ». De quoi est-ce qu'il parle quand il dit que c'est trop loin? De 10 kilomètres, de 15 kilomètres. Allah Azza wa Jal nous a facilité d'aller la chercher au Yémen. Et vous ne voulez pas la chercher à Goussainville. C'est qu'il y a un problème. Et c'est pour cette raison qu'on n'avance pas dans la science. Parce qu'Allah Azza wa Jal donne la science à celui qui la valorise. Et celui qui valorise la science est prêt à se déplacer, est prêt à fournir plus d'efforts. Car cette science, au bout, c'est la porte du paradis en vérité. Et subhanallah, pour le paradis aussi vaste que les cieux et la terre, tu ne vas pas te déplacer et faire 10 ou 15 kilomètres de plus. Parce qu'au lieu de rentrer à 15, tu vas rentrer à 45 chez toi. Quelle erreur par Allah! Quelle erreur! Le Cheikh rahimahullah a commencé son livre en citant le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et il a donné une introduction pour montrer la religion des prophètes et la religion des polythéistes. À la base, Quraysh, et ensuite toute personne suivant Quraysh dans sa manière d'adorer. Il a montré dans son introduction, qu'Allah lui fasse miséricorde, que le tawhid, c'est le fait de n'adorer qu'Allah seul et sans associé. Il dit, I'lam rahimakallah, anna tawhida huwa ifradullahi bil ibada. Sache qu'Allah te fasse miséricorde, que le monothéisme, c'est d'adorer Allah seul, Azza wa Jal. Puis il montre, car ici c'est un résumé, on va raccourcir. Il montre que c'est la religion de tous les messagers. Ceci du premier d'entre eux jusqu'au dernier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith rapporté par l'imam muslim, « وَالْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتِ » Et les prophètes sont des frères d'un même père et dont chacun a une mère différente. Qu'est-ce que cela veut dire? Le prophète alayhi salatu wa salam continue. Ummahatuhum shatta. Il dit, leurs mères sont différentes. Wa dinuhum wahid. Et leur religion est identique. À l'image de plusieurs frères, du même père et non pas de la même mère. Prenons l'exemple d'un homme qui s'est marié, qui a eu un enfant, puis soit il a divorcé, ou alors son épouse est décédée, peu importe, il a dû se remarier une deuxième fois, puis pareil une troisième fois, et ainsi de suite, et avec chaque épouse, il a eu un enfant. Ses enfants sont tous frères, car ils viennent du même père, mais chacun a sa mère. Ce qui est voulu par ce récit, c'est de dire que la base chez les prophètes est identique. Leur religion est unique. C'est l'appel à l'unicité d'Allah, tabaraka wa ta'ala, l'appel à son adoration. Mais chacun a sa mère, c'est-à-dire chacun a sa législation. Chacun manifeste sa pratique d'une façon précise. Pour un prophète, il lui est demandé de prier 5 prières par jour. Pour un autre, c'est différent. Pour un prophète, il lui est demandé de jeûner de telle et telle façon. Pour un autre, c'est différent. Mais à la fin, le but de ces actions qui peuvent être différentes d'un prophète à un autre est le même. Vouer le culte à Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est ce qu'on appelle le tawhid. C'est pour cette raison que tous les prophètes sont musulmans, musulmans soumis à Allah, azza wa jal. Le premier d'entre eux est Nuh alayhi salam. C'est le premier messager. Comme cela est venu dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, dans le chapitre Kitab al-Tawhid, le chapitre sur le tawhid, le hadith rapporté par Anas ibn Malik radiyallahu anhu, où l'on voit que les communautés se dirigeront vers Nuh, car il est le premier messager envoyé par Allah aux gens de la terre. C'est un texte clair. C'est le premier messager. Nuh, alayhi salam, a été envoyé à son peuple, car ces derniers exagéraient à l'égard de leurs gens pieux, de leurs hommes pieux, particulièrement cinq qui étaient appelés Wad, Suwa', Ya'ruth, Ya'uq, Nasr, qui ont été cités dans Surat Nuh, alayhi salam, justement dans le Coran. Ces gens qui étaient vertueux, au service de leurs prochains, généreux, ils enseignaient le bien, ils interdisaient le mal, ils prodiguaient le conseil. Et au cours d'une seule et même année, Allah Azza wa Jal leur a donné la mort l'un après l'autre. Le peuple, pris par la tristesse et touché par la douleur, le shaitan a vu en eux une faiblesse. C'est là qu'il est apparu et il leur a insufflé cette mauvaise idée qui est de prendre des statues, de les sculpter à leur effigie, de leur donner la forme de chacun d'entre eux et de les placer dans les endroits qu'ils avaient l'habitude de fréquenter. Pourquoi ? Afin de se remémorer, de se rappeler d'eux chaque fois qu'ils passeraient devant ces statues et donc pour redoubler d'efforts dans l'adoration et les prendre pour modèle et exemple, chose qu'ils avaient faite. Mais ils ne savaient pas que le shaitan voit très loin. Et il a juré à Allah Azza wa Jal qu'il allait égarer les enfants d'Adam. Depuis qu'Allah l'a maudit et banni, tabaraka wa ta'ala, et Allah lui a donné cette autorisation dans le but de tester ses serviteurs. Sinon, comment gagner le paradis sans épreuve, sans ordre et sans interdit, sans choses devant lesquelles tu dois endurer? Non, il y a des épreuves, et la plus grande épreuve, c'est l'épreuve du tawhid et du shirk. Et après, c'est l'épreuve de la sunna et de la bid'a. Et après, c'est d'autres choses. Eh bien, ils ont fait ces choses-là. Ils ne les ont pas adorés en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Si ce n'est que génération après génération, est venue une génération ignorante qui ne connaissait pas la réelle cause de l'existence de ces statues. C'est là que Shaytan est venu pour la deuxième étape. Et il leur a donné cette mauvaise idée qui est celle de croire que leurs ancêtres avaient posé ici ces statues pour les adorer, pour leur demander la pluie, pour leur demander la guérison, pour leur demander en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est là que pour la première fois est apparu sur terre le polythéisme, le shirk, billahi subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal a envoyé le premier messager, Nuh alayhi salam. Et son récit est dans la surah qui porte son nom. Et je vous invite à la relire. Alors Nuh alayhi salam a appelé Allah Azza wa Jal avec patience, sagesse, avec science et endurance. Mais il n'a pas été suivi par bon nombre de gens, comme Allah Azza wa Jal a dit, وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. Et ne l'ont cru que très peu. Que très peu ont cru en lui. Et à partir de ce prophète, alayhi salam, une succession de messagers venus les uns après les autres, qui va être clôturée par le dernier, le sceau des messagers, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a été envoyé par Allah Azza wa Jal au sein d'un peuple de polythéistes qui eux aussi s'adoraient, s'adonnaient à l'adoration des idoles. Ils les prenaient en intermédiaire. Ils leur demandaient ce que l'on a le droit de demander qu'à Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Ces gens-là, les gens de Quraysh, connaissaient l'existence d'Allah, connaissaient la seigneurie d'Allah. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'ils accomplissaient le pèlerinage, qu'ils donnaient des aumônes, qu'ils évoquaient Allah, Azza wa Jal, abondamment. Mais ils mettaient entre eux et Allah des intermédiaires. Ils disaient, nous ne le faisons que pour que ces intermédiaires nous rapprochent d'Allah davantage. Subhanahu wa ta'ala. Certains ont adoré les anges. Certains ont adoré Isa alayhi salam et sa maman Maryam. Et d'autres aussi parmi les pieux. Alors est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, envoyé par Allah pour faire revivre la religion pure, celle du prophète Ibrahim alayhi salam et de tous les autres prophètes d'ailleurs, Mais à l'époque, le peuple de Quraysh, avant qu'il ne soit égaré, avait les pratiques qui restaient du prophète Ibrahim alayhi salam. Et est venu à eux un homme, un roi qui s'appelait Amr ibn Luhay al-Khuza'i, qui avait voyagé vers le Sham pour se soigner. Et arrivé là-bas, il a vu des gens qui adoraient des statues. Il a trouvé cette idée bonne. Il a amené 5 statues avec lui, ou quelques statues avec lui, et il les a propagées au sein des Arabes. Et il leur a dit, voici la vraie religion. Ils ont délaissé le peu de religion qu'ils avaient du prophète Ibrahim alayhi salam, et ils ont commencé à adorer les statues. C'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique qu'il a vu Amr ibn Luhay dans le feu de l'enfer et il tirait ses entrailles avec ses mains, ses boyaux, ses intestins. Et c'est le premier qui a changé la religion des Arabes. Amr ibn Luhay al-Khuza'i, qu'Allah lui donne ce qu'il mérite comme punition. Ainsi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a dit non, il ne convient pas d'adorer un autre qu'Allah, ni de prendre des intermédiaires entre lui et sa créature. Peu importe qui est cet intermédiaire, que ce soit un ange rapproché ou un prophète envoyé, et à plus forte raison, toute autre créature qui bien évidemment est moindre qu'un ange ou un prophète. Il leur a dit qu'ils ne doivent adorer qu'Allah. Et ces gens-là savaient qu'Allah était le seul créateur, subhanahu wa ta'ala, le seul pourvoyeur, qu'il donnait la vie, la mort, azza wa jal. Et cela n'a pas fait pour autant d'eux des gens croyants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a invités à la religion d'Allah, azza wa jal. Et des preuves ont été citées par l'auteur, rahimahullah, parmi lesquelles le verset connu de surat Yunus, où Allah azza wa jal dit, قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Dit, qui est celui qui vous octroie la subsistance des cieux et de la terre? أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارِ. Qui est celui qui détient l'ouïe et la vue? وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ. Qui est celui qui fait sortir le vivant du mort? Qui est celui qui donne la vie, qui crée la vie, azza wa jal? وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. Et qui fait sortir le mort du vivant. وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ. Et qui gère toute l'affaire? Qu'est-ce qu'ils vont répondre? فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ. Ils te diront, c'est Allah. Quraysh le savait tout cela. Et ce que l'on retrouve dans ce verset, ce sont les bases de Tawhid al-Rububiyyah. Les bases de Tawhid al-Rububiyyah. Car Quraysh a renié certaines branches de Tawhid al-Rububiyyah. Ils n'ont pas eu une foi complète en ce Tawhid, en cette unicité d'Allah dans sa seigneurie. Peut-être qu'on aura l'occasion de le détailler plus tard, inshallah. Allah Azza wa Jalla a dit, فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Dis-leur donc, ne craignez-vous donc pas? Les savants du tafsir ont dit, أَيْ أَفَلَا تَخَافُونَ عَقِبَةَ شِرْكِكُمْ. C'est-à-dire, ne craignez-vous pas la fin néfaste de votre polythéisme que vous commettez en pleine connaissance de cause? Vous dites que vous reconnaissez qu'il est le seul créateur, qui donne la vie et la mort, qu'il détient l'ouïe et la vue, il gère tout l'ordre, et vous vouez l'adoration à d'autres que lui. Ne craignez-vous donc pas qu'un mal ne vous atteigne? Voici pourquoi a été envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque tu as pris acte, lorsque tu as compris ce point d'une très grande importance, que le genre de Quraysh avait cette croyance dans les bases de Tawhid al-Rububiyyah, mais pour autant ils n'ont pas été croyants, et le prophète alayhi salat wa salam les a invités à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu auras alors compris quel est ce Tawhid que eux ont renié justement, qui n'est autre que le fait de n'adorer qu'Allah seul, azza wa jal, sans associé, sans aucun intermédiaire. Adorer Allah directement, l'invoquer directement, ne vouez aucun acte d'adoration à un autre que lui. Subhanahu wa ta'ala. Voici à quoi a appelé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, il a été envoyé pour leur dire que l'adoration ne doit être vouée qu'à Allah, l'invocation et toutes les formes d'adoration. Pour leur dire que croire en l'unicité d'Allah dans la Seigneurie n'est pas suffisant pour faire de toi un croyant. Mais plutôt pour être un véritable croyant, il ne faut adorer qu'Allah seul, subhanahu wa ta'ala, et ne prendre aucun intermédiaire, même s'il s'agit d'un prophète, même s'il s'agit d'un ange, même s'il s'agit de quelqu'un de bon, de pieux, de vertueux, en aucun cas on ne doit agir ainsi. Voilà le tawhid auquel a appelé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le sens de la parole « La ilaha illallah ». Nulle divinité ne mérite réellement l'adoration excepté Allah. Ce sens qui a été compris par le peuple de Quraysh, et qui, à cette époque, est mal compris ou est incompris chez beaucoup de gens qui prononcent cette parole, pendant que Quraysh ne voulait pas prononcer cette parole parce qu'ils en avaient compris le sens, et le sens n'était pas en adéquation, en accord avec ce qu'ils avaient l'habitude de faire, avec ce qu'ils avaient envie de faire. Ils ne l'ont donc pas prononcé. Aujourd'hui, des gens disent « La ilaha illallah » et ne comprennent pas cette parole. C'est pour cette raison qu'ils commettent le shirk, ils tombent dans le polythéisme, ils associent à Allah, ils donnent des égaux à Allah, subhanahu wa ta'ala, et alors ils s'égarent de la voix d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, ayyuhannas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ô vous les gens, dites la ilaha illallah, vous obtiendrez la réussite. Ils répondirent, أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا. Va-t-il réduire les divinités à une seule? إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. Ceci est vraiment une chose étonnante. Voici la réponse qu'ils ont donnée à l'appel au tawhid. Ils ont trouvé l'appel au tawhid étonnant, tout comme à notre époque. Les gens qui s'opposent au tawhid le trouvent étonnant. Tout comme à notre époque, les gens de la bid'a trouvent étonnant qu'on les appelle à la sunna. Mais c'est Allah qui guide qui il veut. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui égare qui il veut. Cheikh al-Islam, rahimahullah, a dit « فَالْعَجَبُ مِمَّنْ يَدَّعِ الْإِسْلَامِ وَهُوَ لَا يَعْرِفُ مِنْ تَفْسِيرِ هَذِهِ الْكَلِمَةِ مَا عَرَفَهُ جُهَالُ الْكُفَّارِ. Quel étonnement devant cette situation dans laquelle nous voyons des gens prétendre l'islam tout en méconnaissant le sens de cette parole connue par les ignorants chez les polythéistes. Subhanallah. Et ça, c'est une triste réalité. Ensuite, l'auteur rahimahullah continue dans son introduction en disant que si tu as bien compris ce point avec ton cœur, alors tu auras compris ce qu'est la réalité du polythéisme. Comme tu viens de comprendre la réalité du tawhid, tu comprends alors la réalité du polythéisme du shirk, au sujet duquel Allah Azza wa Jalla a dit « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih ». Allah ne pardonne pas qu'on lui attribue quelque associé. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Et il pardonne à part cela à qui il veut. Subhanahu wa ta'ala. Voici l'ignorance dans laquelle baignent les gens. Il te dit, si tu as pris conscience de cela, alors deux choses vont naître dans ton cœur. Deux sentiments vont prendre forme en toi. Quels sont-ils? Le premier, al-farah, la joie. Le second, al-khawf, la crainte et la peur. De quelle joie il parle? La joie, lorsque tu comprends qu'Allah Azza wa Jalla t'a favorisé par rapport à tant de personnes, en te guidant à cette voie, à cette voie du tawhid, du monothéisme, de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette époque où les gens baignent dans le shirk, que ce soit les gens qui s'opposent à la parole la ilaha illallah au point où ils ne la prononcent même pas, mais même des gens qui prononcent la ilaha illallah et qui peut-être prient 5 fois par jour et qui en réalité sont des mushrikoun, des polythéistes, ceci car ils ont adoré autre qu'Allah, et dans tout cela Allah t'a favorisé. Et pour ça Allah Azza wa Jalla a dit: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Dit: par la grâce d'Allah et sa miséricorde, c'est pour cela qu'ils doivent être heureux. Il est bien meilleur que tout ce qu'ils amassent. Il parle ici du Coran. Et bien sûr, le Coran ne contient que le tawhid, comme les savants l'ont dit. Donc c'est ce pourquoi tu dois éprouver ta vraie joie. C'est ce qui apporte ton vrai bonheur. Et lorsque tu t'éloignes du tawhid, tu t'éloignes de la joie. Plus tu t'en éloignes, plus la joie se sépare de toi. La deuxième chose, c'est la crainte. Ne pas se sentir à l'abri. Je fais partie des gens du haqq. C'est bon pour moi. Je suis dans la vérité. Non, non, par Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: La ta'jabu bi'amali amilin hatta tanzuru bima yukhtamu lah. Ne soyez pas étonnés par la bonne action d'une personne jusqu'à ce que vous voyez comment elle termine. Vous voyez des gens faire des bonnes actions et peut-être qu'avant de mourir, ils quittent l'islam. Wal'iyadu billah. C'est pour cela que l'on demande à Allah Azza wa Jal de nous raffermir dans ce chemin. Nas'alullah al-thabat ala tawhidi wa ala sunnati rasuli sallallahu alayhi wa sallam ala hadhi ni'mati al-'azima. Qu'Allah nous maintienne dans ce grand bienfait, le meilleur de tous les bienfaits, ni'mati al-tawhid, le bienfait du tawhid. Eh bien, le shir te montre que des gens peuvent quitter ce tawhid avec une parole. Ils peuvent même prononcer une parole tout en l'ignorant, ses conséquences néfastes, et à cause de laquelle ils quittent l'islam. Wal'iyadu billah. Pensant, à travers cette parole, s'être rapproché d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Alors, tu as en toi la crainte de perdre le tawhid. Après cela, l'auteur te dit que tu dois savoir aussi qu'Allah Azza wa Jal, chaque fois qu'il a envoyé un prophète, un messager, il lui a donné des ennemis. C'est l'épreuve. L'épreuve pour t'élever en degré. Des ennemis de cette da'wah. C'est de cette prédication bénie qui ne veulent pas que tu appelles à l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Qui ne veulent pas que tu appelles à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils veulent que tu appelles les gens à adorer autre qu'Allah, à suivre autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toute personne suivant le haqq va avoir tes ennemis dans ce chemin-là, ce chemin de l'islam. Allah Azza wa Jalla a dit: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِ. Et ainsi, nous avons assigné à chaque prophète un ennemi parmi les démons chez les hommes et les djinns. يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Et qu'est-ce qu'ils font les uns envers les autres? Ils s'inspirent, ils se donnent de mauvais conseils avec des paroles enjolivées, des paroles qui sont embellies. Et il se peut, comme le dit l'auteur, rahimahullah, que celui qui appelle au tawhid voit des ennemis ayant de la science, des ambiguïtés. Ils sont forts dans la langue arabe, ils sont forts dans telle et telle science, et ils utilisent ces sciences pour repousser la vérité. Comme Allah Azza wa Jalla a dit: فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ. Et lorsque leurs messagers vinrent à eux avec les preuves explicites, ils se sont enflés de joie devant la science qu'ils avaient. Ils ont utilisé leur science pour repousser le haq. Wal'iyadu billah. Mais tu dois savoir quelque chose. C'est que, comme l'a dit l'auteur, rahimahullah, al-ammi min al-muwahhidin yaghlibu al-alf min al-mushrikin. La personne des gens de la masse, chez les gens du tawhid, est capable de vaincre 1000 personnes chez les gens du shirk. Pourquoi? Parce que les gens de la masse qui sont sur le tawhid, ils ont au moins des bases qui sont saines. Quand on va leur demander d'adorer autre qu'Allah, ils vont se dire, sans profonde connaissance du Coran et de la Sunna, Allah a tout créé, pourquoi devrais-je demander à autre que lui? Subhanahu wa ta'ala. Et il y a plein d'histoires comme ça, où l'on voit que les gens de la masse ont vaincu des gens de science, mais chez les gens de l'égarement. Comme, le temps ne nous permet pas de nous étaler, on l'a déjà vu de toute façon dans un cours. Ainsi, l'auteur, rahimahullah ta'ala, lui dit que chaque fois que quelqu'un nous dit que chaque fois que le suiveur du faux amène un faux, propage une ambiguïté, il y a dans le Coran la réponse à cette ambiguïté. D'ailleurs, Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah, a dit que chaque innovateur, chaque égaré, appelant à un égarement, en justifiant son égarement par un verset ou un hadith, après méditation, on verra très clairement que ce verset ou ce hadith est en réalité une preuve contre eux et pas pour eux. Car celui qui suit le faux et qui justifie son faux par un verset, forcément n'a pas compris ce verset. Car en aucun cas le verset appelle un faux, ni le hadith. Et c'est ainsi que Cheikh al-Islam, rahimahullah, quand il réfutait les gens du faux, il les réfutait simplement avec leurs preuves à eux. Et après avoir démonté leur argumentation, avec leurs preuves à eux, il amenait ses preuves à lui. Imaginez-vous son adversaire devant lui. Plus de langue. Il ne peut plus rien dire. Mais c'est la science qui fait cela. Et ça ne vient pas comme cela. En parlant dans la religion d'Allah Azza wa Jalla, même si tu es habité par la motivation, par l'amour, par la jalousie, pour le haq, pour la vérité, ça ne suffit pas. Si tu n'étudies pas, si tu n'as pas la bonne compréhension, la compréhension des ulama, compréhension des savants, eh bien cela n'est pas suffisant. Et ici, Cheikh al-Islam, rahimahullah, nous explique qu'il va nous citer dans ce livre justement des ambiguïtés. Elles sont au nombre de 12. Nous en avons vu 9. Nous sommes à la 9e. Mais nous révisons de façon brève, inshallah ta'ala, auxquelles il va donner des réponses. Cela ne veut pas dire que les ambiguïtés chez les polythéistes ne sont qu'au nombre de 12. De même, cela ne veut pas dire que les réponses à ces ambiguïtés ne sont qu'au nombre des réponses qu'il a apportées dans son écrit. Mais c'est à titre d'exemple. Et de manière générale, il a cité dans son ouvrage les ambiguïtés les plus véhiculées à son époque et qui ressemblent à notre époque, aux ambiguïtés des gens du faux d'ailleurs. Il nous dit tout d'abord qu'il faut savoir qu'il y a deux manières de répondre aux gens du faux, aux gens de l'ambiguïté. Mujmal wa mufassal. Une manière globale, générale, et une manière détaillée. La manière globale, c'est celle qui peut être donnée ou faite par tout individu chez les musulmans. Le musulman qui n'a pas beaucoup de connaissances, qui n'a pas beaucoup de savoir, il entend une shubha, il entend une ambiguïté. Il n'a pas la science pour y répondre. Mais s'il comprend ce point que l'auteur a cité, cela va être suffisant au moins pour se préserver et pour repousser l'ambiguïté de lui. Et la deuxième manière, c'est la manière détaillée. C'est le fait de prendre l'argumentation donnée par l'adverse, l'adversaire ou l'adverse, et la démonter petit à petit pour montrer qu'elle est fausse et caduque. La première, al-jawab al-mujmal, la réponse globale et générale, c'est quelque chose d'immense. Il dit, Allah Azza wa Jalla a dit dans le verset de Surat Ali Imran, هو الذي أنزل عليك الكتاب, c'est lui qui a fait descendre vers toi le livre, c'est-à-dire le Coran. منه آيات محكمات هن أم الكتاب, il s'y trouve dans le Coran des versets explicites, évidents, qui sont la mère du livre, c'est-à-dire la base du livre, la mère, la base vers laquelle on revient. وأخر متشابهات, et d'autres qui portent à interprétation, qui peuvent amener les gens qui ne sont pas enracinés dans la science, dans le savoir, à confusion. Cela ne veut pas dire que c'est parce que les versets sont confus, mais c'est parce que nous n'avons pas assez de science pour le comprendre, tout simplement. Ensuite, il nous dit, Azza wa Jal, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْرٌ, quant à ceux ayant dans le cœur une déviance, comment ils agissent? فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ, ils suivent ce qui est ambigu, اِبْتِرَاءَ الْفِتْنَةَ, à la recherche de troubles, وَابْتِرَاءَ تَأْوِيلِ, et à la recherche d'une interprétation, وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ, et ne connaît son interprétation correcte qu'Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à la fin du verset, الراسخون في العلم, et les gens qui sont enracinés dans la science qui disent nous croyons en cela, tout cela vient de notre Seigneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه, si vous voyez ceux qui suivent les confusions, فأولئك الذين سمى الله, ce sont eux qu'Allah a nommés, c'est-à-dire dans ce verset, فاحذروهم, prenez garde à eux. C'est un principe de la sunna de prendre garde aux gens des passions. C'est un principe de la sunna de sensibiliser la communauté sur les innovateurs, sur les gens du shirk, sur les gens du mal, comme on voudrait faire croire que c'est injuste, etc. Non. Si c'est fait injuste, c'est injuste à cause de l'injustice. Mais pas ce principe en soi. Répondre le faux, dissiper l'ambiguïté, mettre en garde contre les gens de l'égarement. Depuis quand c'est mauvais de faire ça? Subhanallah. C'est le prophète qui nous le dit, sallallahu alayhi wa sallam. Tayyib. Il nous donne un exemple. Et maintenant, il va entrer dans les ambiguïtés. Mais avant d'entrer dans les ambiguïtés, pour comprendre cette manière de répondre, en fait, quelqu'un, ou alors, nous allons prendre l'exemple d'ailleurs du Cheikh Rahimahullah. Si certains polythéistes te disent qu'Allah Azza wa Jalla a dit « Ala inna awliya Allah, la khawfun alayhim, wa lahum yahzanun » N'est-ce pas que les alliés d'Allah n'ont rien à craindre ni à être attristés? Et il dit, ce sont donc des alliés d'Allah. Et la shafa'a, leur demander l'intercession, est quelque chose de... L'intercession a été affirmée par les textes. Nous leur demandons donc l'intercession. Allah Azza wa Jalla a dit qu'ils n'ont rien à craindre, qu'ils sont proches de lui. Et dans les versets, dans les hadiths, on voit que le jour dernier, il y aura l'intercession. Nous leur demandons l'intercession. Voilà l'ambiguïté par laquelle ils justifient leur shirk. Mais toi, tu ne connais pas la réponse détaillée. Qu'est-ce que tu dis? Cheikh Rahimahullah te donne la manière de répondre. Il te dit de leur dire, Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans son livre que les gens dont les cœurs dévient suivent les choses ambiguës et délaissent les versets clairs et explicites. Et ce que toi tu as cité, ô polythéiste, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Mais une chose est sûre, c'est qu'Allah Azza wa Jal nous a ordonné de l'adorer. C'est-à-dire, toi, tu ne sais pas répondre à son argumentation. Mais tu te bases sur un verset clair. Allah nous interdit d'adorer autre que lui. Moi, je m'arrête sur ce verset. Ce verset, il est clair. Quant à toi, ce que tu cites, c'est certes un verset, certes c'est un hadith, mais j'ignore son explication détaillée. Étant donné que j'ignore son explication détaillée, c'est pour moi quelque chose de confus, je me base sur un verset clair. Dans un verset clair, Allah m'interdit de solliciter un autre que lui. Alors je ne sollicite pas un autre que lui. Quant à cette explication, je ne la connais pas en détail. Et c'est ainsi que tu fais dans tout. Quelqu'un vient et te dit de faire quelque chose en te disant que c'est bon, etc. Alors que c'est une innovation, tu dis, moi je ne connais pas ça. Mais ce dont je suis sûr, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit d'innover. Toi, tu me cites plein de versets, plein de hadiths, etc. Moi, je ne connais pas tout ça, je ne comprends pas, c'est confus, c'est ambigu pour moi. Et tu as voulu suivre ce qui est ambigu. Moi, je reviens à ce qui est clair. Qu'est-ce qui est clair? Pas d'innovation dans la religion. Et ça, c'est un principe chez les gens de la sunna. C'est qu'ils renvoient les textes qui peuvent paraître ambigus aux textes qui sont clairs, afin de les remettre ou de les clarifier. Et c'est ainsi que tu te protèges de l'égarement. Walillahi alhamdu wal minna, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Ensuite, il y a la réponse détaillée. Dans la réponse détaillée, l'auteur rahimahullah a cité 12 ambiguïtés auxquelles il apporte des réponses. Parfois, il donne une réponse, deux, il va même jusqu'à donner 9 réponses, comme c'est le cas de la 9e ambiguïté, et nous nous sommes arrêtés à la 2e. Et on reprendra, inshallah, en détail demain. Bi'idhnillahi ta'ala. Quant à la réponse détaillée, les ennemis d'Allah, Azza wa Jal, émettent beaucoup d'objections face à la religion des messagers, dans le but de faire dévier les gens du chemin d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et là, il va apporter des réponses qui sont détaillées. Quelle est la première ambiguïté? Ils disent que celui qui croit qu'Allah est le créateur, le pourvoyeur, qui donne la vie, qui donne la mort, ne peut pas être un mouchrik. Il ne peut pas être polythéiste puisqu'il croit qu'Allah donne la vie, donne la mort, a créé, a géré, donne la subsistance. La réponse à cette ambiguïté, c'est tout simplement que le peuple de Quraysh, Allah subhanahu wa ta'ala, a dit d'eux à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, que si tu les interroges qui a créé, ils répondront c'est Allah. Et pourtant ils sont des polythéistes. Ces gens-là disent, vous ne pouvez pas dire qu'on commet le shirk. Nous ne sommes pas des polythéistes. Nous ne sommes pas des polythéistes. Nous savons qu'Allah est le seul créateur, le seul pourvoyeur. Mais cela n'est pas suffisant. Cela n'est pas suffisant. C'était le cas de Quraysh. Et pourtant, Allah Azza wa Jal les a qualifiés par cet adjectif, qu'ils sont des polythéistes, tout simplement. Et ça, c'est la réponse à cette ambiguïté. La deuxième ambiguïté, ils disent, donc après que celui de la vérité, le suiveur du haq, a répondu à cette ambiguïté, ils en citent une autre. Ils disent, tous les versets que tu as cités, les polythéistes qui n'auront pas l'agrément d'Allah Azza wa Jal, qui ne sont pas dans le droit chemin, qui sont égarés, etc., ne nous concerne pas, puisque ces gens-là étaient des adorateurs de statues, alors que nous autres, nous sollicitons des êtres pieux, des anges, des prophètes, des gens pieux, etc. Voici l'ambiguïté qu'ils ont citée. Jusqu'aujourd'hui, les gens du soufisme disent tous les versets que vous citez pour dire que nous commettons du shirk et que nous sommes des polythéistes ne nous concernent pas. Ces versets concernent Quraysh qui adorait des statues et nous n'adorons pas des statues. Nous demandons à Allah par l'intermédiaire de tel et tel pieux. Quelle est la réponse à cette ambiguïté? Tout simplement que le Coran prouve le contraire. Dans beaucoup de versets, on voit que des gens adoraient Isa alayhi salam, n'est-ce pas? Il y a des versets dans le Coran. Isa est une statue? Non, c'est un homme, c'est un prophète. On voit qu'ils adoraient les anges dans d'autres versets. Est-ce que les anges sont des statues? Non, ce sont des êtres créés par Allah Azza wa Jal. Et on voit beaucoup de choses, ceux qui ont adoré Maryam, Afara'aytumul Lat wal Uzza, ceux qui ont adoré Al-Lat, qui était un homme pieux, qui pétrissait la farine et qui faisait du pain pour les pèlerins sur une pierre. Puis lorsqu'il est mort, ils ont adoré cette pierre et ils l'ont adoré devant sa tombe. Tout ça, c'est dans le Coran. Donc ce que vous dites est faux. Les versets concernent tous les polythéismes et pas seulement ceux qui adorent les statues. Face à cette réponse, ils émettent une troisième objection, qui est une ambiguïté. Que disent-ils? Ils disent, nous leur demandons l'intercession. Nous ne les adorons pas, mais plutôt nous leur demandons d'intercéder pour nous, tout simplement. Alors pourquoi dites-vous que l'on associe Allah, subhanahu wa ta'ala, la réponse à cette ambiguïté? La réponse à cette ambiguïté, c'est de dire que cette argumentation est exactement la même que Quraysh a donnée. En réalité, vous ne faites que prouver que vous êtes comme Quraysh. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Az-Zumar, « وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَا » et ceux qui ont pris en dehors de lui des alliés, en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'ils disent? مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفًا. Ils disent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Donc Allah Azza wa Jal a bien montré que ces gens-là sont dans le faux. Donc la réponse à cette ambiguïté, c'est de dire qu'en réalité, vous dites exactement la même chose dite par Quraysh. Et ces trois premières ambiguïtés sont les plus grandes chez eux. Et celui qui les a bien compris ainsi que leur réponse, tout ce qui va venir après sera plus simple. La quatrième ambiguïté, c'est qu'ils disent, nous n'adorons pas, nous n'adorons qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le fait que l'on se réfugie auprès de ces pieux ou pour les invoquer, ce n'est pas une adoration. Subhanallah. Si ce n'est pas une adoration, qu'est-ce que l'adoration, Allah? Quelle est la réponse à cette ambiguïté? Il te dit de leur répondre, reconnais-tu qu'Allah Azza wa Jal t'a ordonné la sincérité dans l'adoration? S'il te répond oui, ce qui est obligatoire, car les versets sont tellement nombreux qu'on ne pourrait les réfuter. S'il te répond oui, dis-lui, parle-moi alors de cette sincérité. Qu'est-ce que cette sincérité qu'Allah t'a demandé et qui est son droit sur toi, subhanahu wa ta'ala? Tu verras qu'en réalité, il ne connaît pas l'adoration. Il ne connaît pas c'est quoi, il ne sait pas ce qu'est l'ibada, l'adoration. Car sinon, il ne pourrait dire que ce qu'il fait n'est pas une adoration. Car lorsqu'il invoque, tu lui cites un verset dans le Coran où Allah Azza wa Jal ordonne de l'invoquer. Quand Allah ordonne de faire quelque chose, forcément cette chose est une adoration. Si c'est une adoration et tu reconnais qu'il nous a ordonné d'être sincères dans l'adoration, tu reconnais qu'on ne doit l'avouer qu'à lui seul. Et te voici avouer l'adoration à autre qu'Allah. Subhanahu wa ta'ala, comment peux-tu dire que tu n'adores pas autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala? Il a cité d'autres réponses. La cinquième ambiguïté, il va te dire Atunkiru al-Shafa'a, tu dénies ou tu renies l'intercession. Parce que pour lui, quand tu lui dis de ne pas demander l'intercession au prophète, par exemple, sallallahu alayhi wa sallam, ou de ne pas demander l'intercession à quelqu'un dans une tombe, ou à un ange, ou à un mort, etc., il te répond, vu qu'il a toutes ces ambiguïtés, tu y as répondu, il arrive avec celle-ci, il te dit, tu ne crois pas en intercession? Là, il te donne la réponse. Ils disent, ces gens-là, les gens du shirk, les gens du soufisme, ils disent des gens de la sunna, ils disent de toute façon, al-wahhabiyya, les gens de l'wahhabiyya, en parlant des gens du tawhid, de la sunna, ne croient pas en l'intercession. Ils n'aiment pas le prophète, alayhi salatu wassalam. Ils ne veulent pas que l'on intercède pour eux. La réponse est la suivante. La unkiruha. Je ne remets pas en cause l'intercession. Au contraire, elle a été citée par Allah Azza wa Jalla dans le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va intercéder. Mais l'intercession tout entière appartient à Allah Azza wa Jalla. Et toute chose qui appartient à Allah ne doit être demandée qu'à Allah. Tabaraka wa ta'ala. Et d'ailleurs, elle ne pourra arriver qu'après sa permission. Le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, ne pourra intercéder que quand Allah lui dira « Ya Muhammad, irfa' ra'sak, wa qul tusma' wa sal tu'ta wa shfa' tu shafa'. » Oh Muhammad, lève ta tête, parle, tu es écouté désormais. Demande, elle t'est accordée, et intercède, car tu l'as obtenue, c'est-à-dire l'intercession. Il n'intercédera qu'après entendre cette permission d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc l'intercession existe, mais elle appartient à Allah, on ne doit donc la demander qu'à lui. Elle a été donnée au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais il ne pourra intercéder qu'après la permission d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et on ne peut intercéder qu'en faveur de celui qu'Allah aura agréé. Et Allah n'agrée que les gens du tawhid. Allah n'agrée pas le mushrik, le polythéiste. Donc voilà la réponse à cette ambiguïté. Donc tu vois qu'en réalité, les gens de la sunna ne renient pas l'intercession. Ils l'affirment, mais ils enseignent aux gens comment l'obtenir. Par le tawhid. Et ce n'est jamais par le shirk que l'on va obtenir l'intercession. Celui qui dit « Ya Rasul Allah ishfa'a » au messager d'Allah, intercède. La shafa'ata lahu yawm al-qiyamah. Il n'y aura aucune intercession pour lui le jour dernier. Pourquoi? Parce qu'il a demandé à autre qu'Allah quelque chose qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Si moi, je demandais le bien que tu possèdes, ta voiture, à celui qui est assis à côté de toi, tout le monde dans la salle dirait que j'ai perdu la raison. Parce que la voiture t'appartient à toi. Je ne peux pas la demander à celui à qui elle n'appartient pas. Mais ces mêmes gens qui diraient de moi que j'ai perdu la raison, parmi les polythéistes, ne disent pas que tu perds la raison quand tu demandes à autre qu'Allah Azza wa Jal ce qui appartient à Allah. Mais où est passée la raison? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Quand tu perds le tawhid, quand tu perds la connaissance de ta religion. Tayyib. Ça, c'est la réponse à cette ambiguïté. La sixième ambiguïté, il te dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jal, lui a donné l'intercession. C'est pour cette raison que je lui demande. Vous entendez? C'est une ambiguïté. Il va te citer des versets là. Il va te citer des hadiths. Il va te dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, inni utitu shafa'a. On m'a donné l'intercession. Il va te dire, comment peux-tu me blâmer parce que je lui demande l'intercession alors que lui-même nous dit qu'il l'a, qu'Allah lui a donné. Allahu Akbar. C'est une ambiguïté plus faible que la toile d'araignée en réalité. Pourquoi ? La réponse est tout simple. Certes, Allah Azza wa Jal lui a donné l'intercession. Mais celui qui lui a donné l'intercession t'a interdit de lui demander. Tout simplement. Il t'a interdit de lui demander. Il t'enseigne que tu ne dois la demander qu'à Allah. Tu veux l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Demande à Allah l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autre part, si Allah Azza wa Jal est celui qui donne l'intercession, c'est lui qui l'a donné au prophète alayhi salat wa sallam, c'est une preuve contre toi. Cela montre qu'elle n'appartient qu'à Allah, puisque c'est lui qui l'a donné. Le prophète ne l'a pas et il l'obtient. Donc elle n'est pas à lui. Demande à celui qui donne. Demande pas à celui qui reçoit. Car demander à celui qui reçoit est du shirk. C'est du polythéisme. Comme Allah Azza wa Jal a dit, فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Une deuxième réponse. L'intercession a aussi été donnée à autre que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On le voit dans des récits. Elle a été donnée aux anges qui intercéderont. Elle a été donnée aux pieux qui intercéderont. Elle a été donnée aux enfants en bas âge qui pourront, par la grâce d'Allah, intercéder, etc., etc. Est-ce que je dois dire, puisqu'Allah leur a donné l'intercession, je leur demande? Est-ce que je vais aller demander l'intercession à un enfant en bas âge? Est-ce que je vais aller demander l'intercession à un homme pieux, aux anges? Et j'en passe. Si tu dis oui, tu as montré que tu es tombé dans le shirk qui a été cité par Allah, Azza wa Jal. Si tu dis non, que va-t-il se passer? Eh bien, c'est la même chose que je te dis avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La septième ambiguïté, pour revoir en détail, il vous suffit de réécouter les cours tout simplement. La septième ambiguïté, c'est de dire que celui qui cherche refuge et abri auprès des pieux, etc., n'est pas un polythéiste, car son acte n'est pas de l'association. La réponse à cette ambiguïté est de lui dire, si tu reconnais qu'Allah Azza wa Jal a interdit le polythéisme plus gravement qu'il n'a interdit la fornication. Si tu reconnais qu'Allah Azza wa Jal ne pardonne pas le polythéisme, alors explique-moi qu'est-ce que ce polythéisme qui est pire que la fornication et qui a été interdit par Allah avec autant de menaces venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que quand on parle d'Allah Azza wa Jal, on doit choisir les bons mots et prendre garde, car beaucoup de gens qui ont parlé d'Allah, qui ont voulu le bien, ont dit des mots et ils sont tombés dans l'erreur. C'est pour cette raison que vous m'avez vu réfléchir avant de parler. Donc pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal a interdit le shirk avec autant de menaces envers les polythéistes? S'il te répond « je ne sais pas », dis-lui « comment peux-tu te déclarer innocent d'une chose que tu me dis ne pas connaître ?» Tu dis « je ne commets pas de polythéisme ». Et quand je te dis « tu reconnais que le polythéisme est pire que la fornication, est gravissime », il te dit « oui ». Explique-moi en détail ce qu'est le polythéisme. Il te dit, je ne sais pas. Si tu ne sais pas, tu ne peux pas t'innocenter d'une chose. Parce que peut-être que tu tombes dedans sans le savoir. Comment est-ce qu'Allah Azza wa Jal t'interdit une telle chose en te montrant sa gravité et tu n'interroges pas et tu ne cherches pas à savoir ce que cette chose est, sa gravité? Tu penses qu'Allah Azza wa Jal va l'interdire sans le démontrer? Donc ici, tu lui as montré qu'il ne connaît pas. La huitième ambiguïté, c'est de dire que ces gens-là qui disent que le polythéisme n'est que l'adoration des idoles. Et nous n'adorons pas les idoles. Et le cheikh a donné deux réponses à cette ambiguïté. Il dit, rahimahullah ta'ala, qu'est-ce que veut dire l'adoration des idoles? Est-ce que tu crois que les gens qui adoraient ces idoles pensent que ces arbres, que ces rochers et toutes ces choses-là qu'ils adoraient avaient le pouvoir de créer, de donner la subsistance, de gérer l'affaire de celui qui les invoque? Non, le Coran le dément tout cela. S'il dit non, mais nous le faisons simplement pour qu'ils nous rapprochent d'Allah, subhanahu wa ta'ala, tu leur diras, tu as dit vrai. Tu as dit vrai et c'est exactement ce que vous faites. Si il te dit que les gens de Quraysh, donc pour récapituler, tu leur dis, vous pensez que les gens de Quraysh, qui n'adoraient que les statues, puisque pour vous, le shirk ce n'est que l'adoration des statues. Pensez-vous que les gens de Quraysh qui adoraient les statues croyaient que ces statues créaient, donnaient la subsistance? Ils te répondront non. Pourquoi ils les adoraient alors? Ils te répondront simplement pour qu'ils les rapprochent d'Allah. La réponse est exactement ce que vous faites. Peut-être pas avec des statues, mais à la fin c'est la même chose. Et ceci est interdit. Et ceci est du polythéisme. La deuxième réponse, lorsque tu dis que le polythéisme c'est l'adoration des statues, et que lorsque les versets qui parlent du shirk dans le Coran mettent en garde, ils ne parlent que de cela. Alaykoum salam. Allah Azza wa Jal l'a réfuté dans le Coran en montrant les gens qui ont adoré Isa alayhi salam, qui ont adoré les anges, qui ont adoré les pieux, et j'en passe. Voici le résumé de la réponse à ces premières ambiguïtés. Et en réalité, le but ici, c'est de montrer à la personne son ignorance. C'est de montrer à cette personne qui polémique ou qui débat qu'elle ignore, qu'elle ne connaît pas ce dont elle parle. Parce qu'il s'agit de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Montre-moi ce qu'est le shirk, il ne sait pas. Détaille-moi ce qu'est l'adoration, il ne sait pas. Comment peux-tu te déclarer innocent d'une chose dont tu ignores la définition et la réalité? Combien de gens sont tombés dans le mal à cause de l'ignorance? Ils pensent faire le bien, mais ne le connaissent pas. Alors ils tombent dans le mal. Alaykoum salam. Parce que le mal aussi, ils ne le connaissaient pas. Tayyib. La neuvième ambiguïté, c'est celle sur laquelle nous nous sommes arrêtés, c'est lorsqu'ils disent... Il reste combien de temps? On a fini de toute façon. La neuvième ambiguïté, ils disent que les gens du tawhid qui appellent à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala excommunient les gens qui prennent des intermédiaires. Excommunient, c'est-à-dire les font sortir de la communauté, les font sortir de l'islam, le takfir. Ils disent d'eux qu'ils sont des polythéistes et qu'ils ne sont pas des musulmans. Pourquoi? Parce qu'ils disent la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Comment peux-tu dire de gens qui disent la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah qu'ils ne sont pas musulmans? Et c'est dans cette ambiguïté qu'il va donner 9 réponses pour vraiment l'enlever complètement jusqu'aux racines. Et c'est ce que l'on verra inshallah ta'ala demain. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.